Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Allez, je le disais tout à l'heure avec Karl Meus du Figaro, c'est une semaine qui s'annonce, des jours qui s'annoncent assez décisifs pour la droite du côté des Républicains. Arlette Chabot est avec nous, on va revenir sur le sondage IFOP et puis ce que disait Arlette tout à l'heure dans son éditorial. Nous accueillons aussi Philippe Bilger, bonjour Philippe.
Bonjour Patrick, ouais. Bonjour Cécile.
Oui, dans ces primaires, évidemment, où pour l'instant, il n'y a pas de vrai favori. On disait que c'était Xavier Bertrand aux yeux en fait, des Français. Chez les militants et LR, ce serait Michel Barnier, mais c'est difficile en fait, à suivre. Hein. C'est compliqué parce qu'on ne connaît pas les nouveaux qui viennent de s'inscrire. Vous, Philippe Bilger, comment vous voyez justement cette primaire des LR?
Eh bien, d'abord, j'ai eu l'impression que l'effervescence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen ringardisait d'une certaine manière ce qui allait advenir chez les Républicains.
Ouais.
Mais à la réflexion, je pense que c'est l'inverse. On va quitter une effervescence considérable pour retrouver un climat politique et un dialogue qui seront certainement plus sereins que leurs adversaires le pensent. Et je crois véritablement que l'arbitrage pour les militants des Républicains sera simple. Est-ce que ils tableront uniquement sur la fidélité au parti? Et on a cherché à vendre durant quelque temps Michel Barnier, ou est-ce qu'ils penseront nécessairement au choix opératoire d'une personnalité susceptible de pouvoir l'emporter au second tour s'il se trouvait, par exemple, face à Emmanuel Macron? Ce partage-là sera à faire et tout dépend évidemment de l'alternative et de l'option que les militants, les nouveaux qui arrivent, choisiront.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qui s'est passé chez les Verts, en fait. Hein. Tout
oui.
le monde disait, généralement, ils choisissent celui qui est le plus proche de leurs opinions, de leurs convictions, donc disons le plus extrême pour faire simple, au lieu de choisir celui ou celle qui peut l'emporter. Et finalement, on a vu chez les Verts que Sandrine Rousseau, certes, a été battue sur le fil, mais quand même, c'est Jadot le candidat, parce que c'est celui qui peut élargir et qui a une chance de faire un meilleur score. Donc ça peut être la même chose chez les Républicains, on ne sait absolument pas.
Ouais.
Soit celui qui est en tête des sondages, effectivement, avantage pour Xavier Bertrand, ou bien le plus fidèle au parti qui est
attention,
Michel Barnier.
En tête des sondages pour l'ensemble des Français.
Pour l'ensemble des Français,
voilà,
mais sauf
il y a une
que
nuance,
dans le vôtre quand même, c'est celui qui est, il faut appeler
oui.
aujourd'hui,
oui.
c'est celui qui incarne le mieux la droite chez les Républicains aujourd'hui.
Oui.
Après, entre ces deux éléments, il y aura les débats et on verra qui effectivement est le meilleur. On favori Alain Juppé, on l'avait dit en ouais. 2016, et pendant les débats, ça a été une catastrophe, Alain
ouais,
Juppé.
Ouais,
hein,
ouais, ouais.
C'est-à-dire que d'un seul coup, celui qui incarnait la sagesse, le plus âgé, est devenu vieux.
Ouais.
Voilà.
Vous avez fait un parallèle tout à l'heure, absolument. Arlette, avec 2016 hein, et les débats, où c'est vrai qu'il y avait une autre tension. Est-ce que Philippe Bilger, à votre avis, le fait que Éric Zemmour ait mis, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein, mais ait mis beaucoup de sujets sur la table, va changer aussi un petit peu la donne de ces débats entre les Républicains eux-mêmes?
Il me semble, Patrick, d'abord, les Républicains n'ont pas attendu Éric Zemmour ou Marine Le Pen.
Oui, mais
pour
sur certains sujets, ils étaient un peu timides.
Oui, sûrement, Patrick, mais j'y venais justement. Ils étaient attentifs à certains thèmes régaliens bien avant qu'ils deviennent prioritaires dans le débat d'aujourd'hui.
Ouais.
Mais ce qui est important pour les Républicains, c'est qu'ils prennent garde au fait qu'un certain langage de parler vrai, voire de brutalité, d'Éric Zemmour, une manière de ne rien dissimuler, qu'on pense comme lui ou non, eh bien, va devoir être adopté. Je pense que les militants LR, comme tous les autres, ne supporteront plus aujourd'hui une sorte de forme qui ressemblera à de l'eau tiède, qui dissimulera la pensée au lieu de la révéler. Il faudra que les Républicains tirent les leçons aussi de ce qui s'est passé ces dernières semaines.
Oui. Merci Philippe Bilger, Arlette Chabot. On va poursuivre dans un instant. On reviendra sur tous les sujets d'actualité aussi qui vous interpellent. 0826 300 300. Tiens, le professeur Raoult, par exemple, devant ses pairs aujourd'hui, on va l'évoquer. Ou encore, je sais que le sujet des mutuelles d'hier vous fait encore réagir. Allez, dans un instant.
Restez avec nous, 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05, merci d'être avec nous. Et les grands débats, la suite des grands débats.
Oui, la suite des grands débats, on reviendra peut-être sur la droite. Vos appels 0826 300 300, c'est sais que vous voulez revenir par exemple sur les mutuelles. Oui. Et puis tout à l'heure aussi, Peggy Sastre sera avec nous. Quelles sont les impostures intellectuelles et comment les combattre, puisqu'elle a écrit ce livre, Le Triomphe des Impostures Intellectuelles. C'est particulièrement intéressant et brillant, et là aussi vous pourrez réagir et appeler au 0826 300 300. Arthur le disait tout à l'heure dans le flash, eh bien le professeur Raoult va être entendu ce matin par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Nous sommes avec maître Fabrice Divisio qui est avec nous, qui défend le professeur Raoult. Bonjour Fabrice Divisio. Fabrice Divisio avec nous dans un instant. Juste avant, avec vous, le factuel Félix Mathieu, Didier Raoult, voyons voir pourquoi il est poursuivi. Hein. Il est visé par des plaintes de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, mais aussi du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui était associé à ces poursuites.
Hein. Oui, la promotion de l'hydroxychloroquine, malgré, disent-ils, l'absence d'effets scientifiquement prouvés contre le Covid-19, ces praticiens y voient une faute déontologique. Quant aux données mises en avant par l'IHU de Marseille, eh bien, ils remettent en cause la méthodologie, les conditions de réalisation. L'Ordre des médecins qui reproche aussi au professeur Raoult des attitudes, je cite, anti-confraternelles envers les médecins qui ne pensent pas comme lui, prise de position sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias. Les sanctions, en tout cas, s'il y en a, peuvent aller d'un simple avertissement à une radiation, décision attendue d'ici 15 jours à 2 mois.
Oui, mais dans ce bras de fer, le professeur Raoult a lui-même déposé plainte. Hein,
oui, plainte contre le vice-président de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône en charge de la déontologie. Didier Raoult lui reproche lui-même un comportement bien peu confraternel, en fait, hein, dans son viseur, notamment une cinquantaine de tweets qui le dénigraient en 2020.
Voilà pour ce factuel. Fabrice Divisio est avec nous. Bonjour Fabrice Divisio.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez entendu ce factuel, hein, de ce qui est reproché au professeur Raoult. Comment assurer sa défense dans ces conditions, en fait, de Didier Raoult?
Très facilement, en venant expliquer que c'est pas le Conseil national de l'Ordre des médecins, c'est pas le ministre de la Santé qui font les données de la science, parce que dans votre factuel, vous avez oublié quelque chose. Mmh. C'est pas on reproche au professeur Raoult d'avoir fait la promotion de la chloroquine en dépit des publications qui existent, parce que on vous dit que les publications qu'il cite en faveur de l'hydroxychloroquine sont de mauvaise qualité, alors que celles qui viennent contredire l'efficacité de la chloroquine sont de bonne qualité. Et que donc, il a violé des recommandations, et plus exactement des données de bonne qualité. Donc voici que c'est le procès des fleurs du mal avec le bien nommé Pinard, avocat général, qui parlait des atteintes à la morale publique et à la morale religieuse. Ça n'est que ça. Ouais. C'est-à-dire que dans cette affaire, il y a l'ordre qui juge de ce que sont les bonnes publications et qui juge ce que sont les mauvaises publications. Oui. C'est extraordinaire.
Oui. Il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est quand même l'Ordre des médecins qui lui reproche une attitude anti-confraternelle. C'est quand même assez étonnant, ça, non?
Ah bah ça, pour le moins, non, c'est assez étonnant.
C'est vrai, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Didier Raoult, quoi, bien sûr, mais on a le droit de ne pas être d'accord avec certaines choses et certaines pratiques
médicales. Ah non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. En France, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec l'opinion dominante. Oui. Ça, c'est une constante, et ce procès le démontre. Il y a le bien, il y a le mal, et lorsqu'effectivement vous avez une opinion dissidente et argumentée, c'est mal, et d'ailleurs, j'en peux pour preuve, que dans les griefs qui lui sont reprochés au terme des différentes plaintes, factuellement, je veux dire, on lui dit « Vous n'avez pas concouru à l'action entreprise par le ministre sur la gestion de la pandémie et vous vous êtes écarté des recommandations en compliquant la vie substantiellement des ministres. » Ce qui est extraordinaire quand même. Voici qu'effectivement le médecin doit non plus avoir souci de la vérité scientifique, mais de la vérité politique. Oui. Ça finit toujours mal, ce genre d'histoire.
Oui, peut-être aussi parce qu'il a persévéré un petit peu, Didier Raoult, dans ce qui ne marchait pas forcément non plus complètement, quoi. Parce que de toute manière, tâtonnait, hein. Non, mais il faut reconnaître les choses. Non,
mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça ne marchait pas complètement. Et
bah oui.
Bien, hein,
bah
sans doute, hein.
Bah
je veux dire, simplement, effectivement, je trouve ça extraordinaire. À une heure où, effectivement, on a vacciné la moitié, sinon les trois quarts de la planète, avec un vaccin dont on commence à se demander, Israël en étant le témoin, si l'efficacité qu'on nous a vendue est réellement celle effective. Mmh. Si vous voulez, la science, elle décide de faire preuve d'humilité. Mmh. Et il n'y a pas de baguette magique. Je l'ai dit, et Didier Raoult, cette expression de la baguette magique, elle est de lui. Mmh. Je l'ai dit à propos du vaccin, il l'a dit à propos des traitements. Il n'y a pas de baguette magique. Simplement, effectivement, vous avez le droit de présenter la vaccination, par exemple, comme une baguette magique, mmh, en dépit des données de la science. Regardez, vous avez le droit de vacciner des enfants de 5 à 11 ans, mmh, alors qu'il n'y a aucune étude clinique, qu'il n'y a aucun essai clinique jusqu'à une époque récente. Depuis janvier, on a vacciné 5000 enfants de 5 à 11 ans en toute illégalité, mais on vous dit, mais c'est normal, le médecin est libre de ses prescriptions, il a le droit de vacciner des enfants de 5 à 11 ans s'il le veut. Bah, c'est ouais, pareil.
Ouais, ouais. Merci hein, Fabrice Division donc, d'avoir réagi ce matin en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, d'un commentaire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme finalement d'acharnement sur Didier Raoult aujourd'hui ?
Sûrement, Patrick. Moi, je n'ai d'abord, en tant qu'amateur, par moments, je trouvais que le professeur Raoult n'avait pas une image médiocre de lui-même et guère de tendresse pour
d'accord,
ceux qui ne pensaient
pas dire
comme
oui,
lui.
Oui.
Mais on lui a bien rendu. Et je trouve que vous avez raison, si je comprends bien votre interrogation, alors qu'il y a eu débat tout au long des débats qui approuvait ou contredisait le professeur Raoult, il me semble que là, c'est un coup de pied de l'âne de type judiciaire qui n'est pas très digne.
Oui, absolument. 0826-300-300, vos réactions au sujet d'actualité que nous abordons d'une manière ou d'une autre. C'est Richard qui est avec nous de l'Aveyron. Bonjour Richard.
Bonjour.
Quel sujet vous interpelle et sur quoi vous voulez réagir ?
Moi, c'était par rapport à hier, lorsque vous avez parlé des mutuelles.
Des mutuelles, oui.
Et c'était pour apporter un témoignage personnel, puisque moi, j'étais salarié jusqu'à il y a 4 ans derrière. Je suis maintenant à mon compte depuis 4 ans.
Ouais.
Et j'ai fait le choix d'opter pour une mutuelle hospitalisation uniquement.
Ouais.
Ça veut dire que je suis couvert uniquement en termes d'hospitalisation. Et lorsque je fais mon calcul, puisque je vais à peu près voir le médecin 2 fois par an, je fais une analyse de sang et ça me revient, on va dire, le côté ticket modérateur, ce qui est à ma charge, coûte 55 €, quoi. Donc, lorsque je fais le calcul bénéfice, j'ai une mutuelle qui me coûte 250 € par an, alors qu'on me propose une mutuelle globale qui frôlait les 150, faites le calcul. C'est une économie tous les ans, au minimum de 300-400 € que je fais.
Eh oui.
Ce dis-là. C'est un choix.
Oui, c'est un choix. Parce que sinon, c'était trop cher, hein, c'est ça la
mutuelle. Moi, c'est pas vraiment que j'aurais pas pu me la payer. À un moment donné, je veux dire, on fait le calcul, on regarde quel est le bénéfice-risque, quel est l'intérêt.
Ouais.
Sachant aussi qu'on l'a pas évoqué, mais vous savez, lorsque vous avez malheureusement un cancer ou un infarctus, la sécurité sociale vous prend 100%.
Oui.
Votre mutuelle n'intervient plus.
Ouais.
Donc, c'est vrai que le risque majeur, il est couvert par le système.
Ouais.
On va dire que les mutuelles sont là surtout pour arrondir les angles. Alors, l'hospitalisation, pour moi, est importante, puisque si vous bénéfice d'appendicitoire, c'est vaut mieux.
Ouais.
Je suis couvert pour l'hospitalisation et j'estime que pour le reste, vite c'est le médecin ou quelques analyses par-ci par-là, je peux l'assumer, sachant que les frais dentaires et l'optique sont mal remboursés de toute manière, même avec les mutuelles, puisque même quand on vous dit qu'on vous rembourse à 100%, c'est 100% du tarif sécurité sociale. 100% de rien ne fait rien. Lorsque vous avez, je sais pas moi, par exemple, une couronne qui est remboursée autour de 100 €, qui coûte 100 € pour le tarif sécurité sociale et qui vous coûte 150 € chez votre chirurgien dentiste, en réalité, le remboursement d'une mutuelle, même à 100%, c'est 100% des 100 €, donc c'est 30 €.
Mmh.
C'est là aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire interpréter et lire entre les lignes.
Ouais, ouais. Merci de votre témoignage, Richard. Mais je sais que ça vous a beaucoup fait réagir hein, au 0826-300-300, hier, ce sujet que nous abordions avec cette enquête hein, qui a été menée sur les mutuelles. On fera un débat en présence, d'ailleurs aussi, des mutuelles. Dans un instant, merci Arlette Chabot d'avoir été avec nous depuis ce matin, évidemment. Pour les débats politiques, l'éditorial, les débats politiques autour de la semaine sans doute décisive hein, qui vient pour les Républicains. Philippe Bilger également, qui va rester pour poser, je sais, parce qu'il voudrait, il est curieux, il veut poser une ou deux questions.
Au moins l'écouter, parce qu'elle est remarquable.
Peggy Sastre, qui va être avec nous, journaliste, écrivain, docteur en philosophie des sciences et traductrice du best-seller anglais Le Triomphe des impostures intellectuelles.
Restez avec nous, vous voulez participer au débat 0826-300-300, il est 9h14.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h17 et on continue les grands débats avec Arlette Chabot, avec Philippe Bilger. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur les impostures intellectuelles. Comment les combattre avec Peggy Sastre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain et docteur en philosophie des sciences et traductrice de ce best-seller anglais, Le Triomphe des impostures intellectuelles, publié aux éditions HNO.
Oui, Peggy Sastre, à chaque fois que vous parlez, que vous vous exprimez, vous écrivez, ça suscite beaucoup de réactions.
Hein. Ça arrive, oui.
Oui, ça arrive. Non mais parce que vous êtes cash, quoi. Et puis, vous n'alliez pas dans une certaine bien-pensance d'il y a quelques années, qui aujourd'hui est en train peut-être de bousculer, d'être bousculée, non ?
Oui, on peut dire ça. Après, faut savoir que j'ai une configuration cérébrale un peu spéciale. Donc, je suis sur le spectre autistique. Et en fait, ça me protège que dans le sens où je ne suis pas sensible à la vie des gens. Donc, c'est vrai que ça peut se traduire en franchise. Mmh. C'est qu'en fait, j'ai pas la peur du contrôle social que les gens normaux, entre guillemets, ont...
Oui, oh là là, si je dis telle chose, etc. C'est d'ailleurs ce qui bloque un peu, selon vous, nos sociétés, de ne pas oser dire un certain nombre de choses parce qu'on est dans un contexte social, etc.
Absolument, il y a un problème d'autocensure énorme et c'est d'autant plus dommageable qu'en fait, les gens qui... Aujourd'hui, dans le contexte culturel dans lequel on est, les gens qui s'autocensurent sont en fait les modérés, les gens qui ont peur... sont en fait les gens qui fondamentalement ne risquent pas de dire des choses exceptionnellement graves. Et donc en fait, les modérés se censurent, et ceux qui ne s'auto-censurent pas, ce sont les extrémistes. Et donc c'est pour ça qu'on assiste à cette polarisation extrême du débat, qui est pour moi très très dommageable.
Mais est-ce qu'on est capable tous de tout entendre en fait ? C'est ça le problème.
Bah ça serait bien, ça serait un idéal à atteindre, parce que c'est comme ça qu'on met à l'épreuve les idées, de les entendre, de les tester, d'avoir des diversités de points de vue, de les contester, de les contredire, et par définition, si on ne met pas une idée sur la table, même si elle est horrible, en fait elle reste toujours dans un état brut, et elle peut effectivement dégénérer. Je veux dire, on peut faire une métaphore. Le soleil, c'est le meilleur des désinfectants. Il faut que les choses sortent pour qu'ensuite ça
se gangrène pas.
Tout à fait.
Bon, globalement, donc les gens prennent des postures en quelque sorte, quoi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez écrit vous le triomphe des impostures. En fait, c'est bon. Vous avez co-traduit le triomphe des impostures intellectuelles. C'est publié aux éditions HEO. Alors, quelles sont ces impostures intellectuelles et d'où nous viennent-elles? Beaucoup. Alors pour les auditeurs, il faut préciser, ça vient des États-Unis en fait.
D'abord, ça vient de France, c'est ça la blague.
Oui, alors c'est ça, voilà, c'est parti de France.
Voilà. Ouais. Ça a commencé avec le postmodernisme classique en France dans les années 50-60 avec Foucault, Derrida, ce genre de personnes. À cette époque-là, ça avait relativement peu de succès, à part Foucault en France. Donc c'est parti aux États-Unis. Là ça a infusé avec justement l'ambiance culturelle, la culture américaine. Et aujourd'hui, donc là c'était la phase avec Judith Butler, ce genre de personnes. Et aujourd'hui, c'est en train de nous revenir en boomerang. Donc on dit souvent c'est la contamination des campus américains, mais il faut savoir que le virus en fait, à la base vient de chez nous, quoi.
Des années 50, 60, bien sûr, quoi. Alors c'est quoi ce virus, quoi, justement, que les auditeurs se disent, mais alors c'est quoi?
C'est vraiment un virus intellectuel. Ce sont des pensées qui ne sont pas comptables de la logique, notamment de la loi de non-contradiction, du fait que voilà, on ne peut pas soutenir deux idées contradictoires à la fois, ce genre de choses. En fait, ça s'organise autour de deux grands principes que les auteurs donc du livre
décrivent.
Donc il y a le principe politique. Donc le principe politique, c'est de dire qu'en fait toute la société, toute l'organisation politique est en fait une organisation de dominants et de dominés, une hiérarchie comme ça très verticale, donc on peut pas s'en sortir. Et ensuite il y a le principe de la principe de connaissance ou le principe épistémique qui dit qu'en fait il n'y a pas la réalité objective, tout est une affaire de construction. Et là pour moi c'est le point qui est le plus grave pour la sérénité du débat, parce que si on n'a pas un minimum de terrain d'entente, de réalité commune, ben en fait tout se balkanise, chacun sa vérité, chacun ses faits, et c'est ce que dit Alan Sokal dans la préface. C'est que la blague, c'est que ces théories, ces écrivains, ces auteurs, ces philosophes viennent généralement de la gauche, mais en fait les gens qui appliquent ça de manière la plus concrète et la plus dangereuse, c'est les gens de droite et d'extrême droite et de droite populiste. Et donc voilà, et ça on est en train d'assister à un retour de boomerang excessivement perturbant, qui est que ces idées qui sont en fait nées de la gauche sont en train de servir à la droite, parce que enfin la droite
sur quelles idées par exemple,
typiquement le fait de dire que voilà il n'y a pas de fait objectif, il n'y a que des interprétations, mais ça donne Donald Trump, enfin ouais. En tout cas son attaché de presse, ouais. qui au moment de son investiture dit vous croyez que il n'y avait personne à son investiture, mais en fait il y a des faits alternatifs, et en fait il y avait beaucoup de gens.
Ouais, ouais.
Et ça rend littéralement fou, et ça rend des sociétés folles en fait.
Ouais. Et c'est ce qui explique, vous avez parlé de la construction, de la déconstruction en fait actuelle. On en a beaucoup parlé avec Sandrine Rousseau.
Tout à fait.
C'est issu de cela en fait, ah, ces théories. Il faut tout déconstruire.
Tout à fait. Elle, c'est le fruit. C'est l'héritière, en tout cas aujourd'hui dans le débat politique français, c'est un peu la forme chimiquement pure de ce genre de pensée. Comment dire, on voit ce que ça produit politiquement, quoi.
Oui, on remet tout en question.
Voilà.
Tout ce qui est organisé.
Tout à fait.
C'est fondamentalement, c'est plutôt bien aussi de remettre un peu les choses en question. Ça part, comme vous le disiez, de bons principes, quoi.
Non, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'hypercritique. Je ne sais plus qui disait ça. Il disait l'hypercritique. L'hypercritique est à la critique, parce que la finasserie est à la finesse. Et donc voilà, le fait que il y a un moment, évidemment, c'est tout à fait sain de remettre en question, de critiquer, etc. Mais justement, il faut se dire qu'il y a quand même une base commune à tous, sur laquelle justement on peut débattre et on peut critiquer, parce que si en fait on déconstruit tout, c'est ce que disent les auteurs dans l'introduction, en fait tout ce qu'on aura en partage, c'est un tas de ruines et c'est pas très.
Mais déconstruire oui, mais imposer non, c'est ça.
Oui,
parce que là, on a l'impression que la pensée est imposée, et la nouvelle pensée, effectivement, de la woke culture,
tout
est imposée.
Tout à fait, c'est ça le truc. Il y a effectivement.
Et si on n'y adhère pas, on y correspond.
Effectivement, il y a ça. Il y a le côté déconstruction et le côté très autoritaire, comme vous dites, c'est imposé. Et surtout le côté censure des idées contradictoires, des idées opposées. La diabolisation des idées opposées, parce que ça aussi c'est très intéressant. Et c'est là qu'on voit l'héritage américain, c'est que c'est Tout chez eux devient une religion. Tout chez eux devient une idéologie religieuse.
Le wokisme, par exemple, c'est une religion.
Avec ses diables, avec ses anges, avec ses on voit que quand on analyse les choses un peu de près, on voit que c'est une pensée fondamentalement religieuse. Et ça, pareil, c'est pas bon pour des civilisations qui sont le fruit des Lumières, qui ont justement remis en question et déconstruit l'autorité divine, quoi.
Et qu'est-ce qui se dit alors dans les universités? Vous savez, on a eu ce débat il y a quelques mois, quelques semaines, et aujourd'hui ça continue, mais ça a été c'était beaucoup sur l'islamo-gauchisme. Aujourd'hui on parle du wokisme, c'est un petit peu plus étouffé. Vous qui connaissez bien ce monde-là, est-ce qu'il y a vraiment une forme de gangrène alors?
Bah, en tout cas,
c'est mon
impression que ce sont des idéologies excessivement toxiques. Les auteurs, la Pleucrose et l'INSEE, quand ils avaient sorti le livre, ils avaient fait une petite vidéo très 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 marrante. En fait, on commence à voir Foucault qui parle dans un débat avec Chomsky dans les années 70. Voilà, il dit qu'il faut tout déconstruire, il faut se rendre compte que, par exemple, les universités sont des lieux de pouvoir et que c'est caché, on le voit pas, etc. Et ensuite, ils font un montage très très malin où on voit toutes les émeutes sur les campus américains. Il y a du feu, il y a du sang, il y a de la violence. Et c'est assez malin comme vidéo, parce que justement on voit bien les conséquences que ce genre de discours peuvent avoir sur la société, et que c'est un éclatement total, et rien ne peut en sortir de bon. Enfin, c'est la vieille lune de on va tout cramer et on va repartir sur des basses scènes, mais en fait non, quand on crame on a rien, on a juste un tas de cendres.
Philippe Bilger.
Oui.
D'abord, j'aime beaucoup Peggy Sastre, que je lis avec beaucoup d'intérêt. Et je voulais lui demander, est-ce que vous ne croyez pas que ce que vous dénoncez à juste titre, c'est-à-dire le fait que, en réalité, on ne s'accorde même pas sur la réalité minimale à partir de laquelle on pourrait réfléchir, n'est pas un vice qui dépasse très largement le féminisme et qui explique peut-être l'extrême violence en France du débat intellectuel, politique ou féministe?
Oh, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est que du moment où on n'a pas de terrain d'entente, enfin tout est dit dans le terrain d'entente, mais on ne peut pas s'entendre. Et on en crée un écosystème qui est justement un pur écosystème de pouvoir et de loi du plus fort, en fait.
Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Peggy Sastre. On a évoqué le féminisme. Bah, vous allez nous donner votre version du féminisme. Je sais qu'il y a, il y a des oppositions de style, si je puis dire, et même sur le fond, dans un instant.
Restez avec nous. Vous voulez nous appeler, bien sûr, et poser des questions à Peggy Sastre, 0826-300-300, tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h32, la suite du grand débat sur les impostures intellectuelles, comment les combattre, avec Peggy Sastre, ce matin, qui est avec nous, docteur en philosophie des sciences. Et pour ce livre traduit en français, Le triomphe des impostures et intellectuelles aux éditions HNO, et puis toujours avec Philippe Bilger et avec vous, Arlette Chabot.
Oui, alors sur le féminisme, alors parce que vous avez une vision bien personnelle en fait du féminisme, qui est contestée par certains, quelle est votre vision?
Bien personnelle, je ne sais pas, elle est quand même traditionnelle. Très libéral, c'est assez classique. C'est moi, le féminisme, pour moi et pour d'autres, c'est garantir l'égalité de statut et de droit des hommes et des femmes dans une société, point. Enfin,
Alors pourquoi ça ne passe pas avec les féministes en fait d'aujourd'hui?
Parce qu'aujourd'hui, on en est beaucoup de féministes, en tout cas, ont inversé à mes yeux le sujet. Comment dire on en vient en fait à une domination féminine, à une volonté d'hégémonie féminine, et surtout de conflits sexuels, de conflits entre hommes et femmes. Les hommes sont forcément les ennemis quand on est une femme. Il y a un a priori. Il y a un amalgame total qui aussi me paraît excessivement toxique, et c'est pas...
Ça veut dire qu'en fait on a envie de faire aux hommes ce que les hommes auraient pu nous faire.
Il y a un espèce de mouvement de grande revanche. On cherche pas l'égalité, on cherche la réparation. Mais le problème, c'est que, effectivement, que les femmes ont souffert dans l'histoire, mais bon, les hommes aussi. Enfin, c'est pas comme si l'histoire était un lit de rose pour les humains. Mais il y a aussi un problème de base, c'est que les hommes d'aujourd'hui sont pas responsables des travers des hommes d'hier, quoi. Donc c'est très moi, ça me fait penser aux représailles collectives. J'ai plongé dans le point Godwin tout de suite. Voilà, ce que faisaient pour le coup les vrais fascistes, c'est que toute la lignée est coupable. Bah, c'est pas bon, quoi.
Arlette Chabot.
Oui, justement, je reviens au tout début. Vous dites que les modérés se taisent. Mm. Parce qu'on peut plus être modéré. On n'intéresse personne quand on est modéré, équilibré, et quand on dit deux, trois choses simples et de bon sens. Le bon sens, c'est foutu, quoi. Mm.
C'est assez vrai, et là c'est sûr que pour le coup, je pense qu'il y a une responsabilité médiatique. On paye aussi on paye aussi les travers de l'économie des médias depuis 10-20 ans, où on est pour plein de raisons économiques, c'est moins cher d'avoir quelqu'un qui surveille toute la journée Twitter en disant ça monte, ça va faire du buzz, etc., que de payer un reporter qui part 3 mois pour une enquête et on ne sait même pas s'il va la finir. Donc ça, voilà, pour le coup, ce sont des problèmes systémiques.
Les médias, mais pas seulement les médias. Au-delà,
les centristes, ils sont en voie de disparition.
Oui, mais c'est aussi, mais comment dire, ils sont en voie de disparition parce que aussi ils ne font pas le buzz, ils sont pas. Je pense pas tant qu'ils ne parlent pas, c'est qu'on les met pas en valeur. On veut du clash. On veut même pas de la pensée, en fait. C'est un des problèmes. Et ensuite, il y a un effet en cascade assez.
La société est devenue en fait un grand café du commerce où on entend plus ceux qui ont des positions justement, qui vendent, qui vont hurler en fait au bar pour prendre parole. C'est ça, quoi. Plus qu'un salon philosophique où il y aura la sagesse.
C'est assez bien résumé, oui. Après, on peut aussi, on peut aussi se féliciter que de plus en plus de voix et justement voix au chapitre, que ça reste pas justement les trucs de pouvoir feutrés. Ouais. Vous avez bien les codes, vous savez bien parler, vous savez bien argumenter, vous savez bien organiser votre argumentation, etc. Mais c'est comme tout, il y a des effets. Voilà, c'est comme tout. Il y a des effets pervers. Il y a des défauts, des qualités, etc.
Pour rebondir sur ce que dit Arlette Chabot, pour lutter contre ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut encore crier plus fort, parce qu'effectivement le discours modéré ne lutte à rien? Est-ce que ça veut dire qu'il faut encore monter le ton? C'est ça le souci, parce que c'est une escalade. Oui, ça s'arrêtera jamais.
Tout à fait. Je peux pas vraiment dire ce qui est bon. Je peux dire pour le coup ce que je pense bon, et là pour le coup je suis tout à fait d'accord avec les auteurs Plocroze et Lindsay. Oui. Faut repartir vraiment sur une base libérale, mais vraiment libérale classique. Juste dire que voilà, la méthode scientifique est le meilleur moyen pour connaître la vérité ou connaître la réalité. La réalité existe, la réalité n'est pas une construction. Si vous vous jetez par la fenêtre, vous tombez parce qu'il y a la gravité, c'est pas parce que vous pensez un oiseau que vous allez voler. Ce genre de choses. Le respect, c'est très important, le respect de la diversité des opinions, parce que justement, tout le monde est biaisé, personne n'est omniscient, personne n'est parfait, donc il faut chacun se vérifier ses biais et se confronter à la diversité de points de vue, parce que voilà, c'est aussi comme ça qu'on atteint la vérité, en se confrontant chacun les autres, les uns les autres. Et aussi le truc assez fondamental dans la pensée libérale, c'est justement le refus de l'autorité. Le refus de l'argument de l'autorité, c'est pas parce que quelqu'un te dit j'ai le pouvoir donc tu vas m'écouter donc c'est vrai. Non, personne, oui, mais... en fait personne n'est à l'écart de, comment dire, n'est protégé de la critique, en fait.
Oui, mais vous montrez quand même, enfin, dans ce livre, que les scientifiques, en tout cas les revues scientifiques, ne vérifient pas forcément tous leurs papiers.
Tout à fait.
Donc quand vous dites qu'il faut se baser sur la science, c'est compliqué. C'est-à-dire que où est la vérité, où est pas la vérité, c'est l'intérêt de ce canular.
Oui, tout à fait. Quand on dit la science, il faut savoir qu'on entend la méthode scientifique. Donc c'est vraiment une méthode. Comment est-ce qu'on vérifie les faits? Comment est-ce qu'on réplique les expériences, etc. C'est pas la science en tant qu'autorité. C'est pas les revues scientifiques, les scientifiques, etc. C'est comment est-ce que vous êtes arrivé. C'est le truc fondamental. C'est comment est-ce que vous croyez ce que vous croyez. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous pensez vrai. Et quand on déconstruit le cheminement, c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il y a des trucs qui tiennent pas, quoi. Et c'est là qu'il faut les corriger.
Ouais. Peggy Sasse, pourquoi aujourd'hui il y a une forme d'obsession pour les minorités victimes?
C'est assez juste de préciser les minorités victimes, parce que ça, c'est vraiment le, ça, c'est vraiment le gros truc. C'est pas les minorités, parce qu'il y a une minorité, minorité d'entre les minorités, c'est par exemple les musulmans apostats, ça tout le monde, ça tout le monde s'en fout, ou les noirs de droite, ça tout le monde s'en fout, ces gens-là, bizarrement, les gens qui sont pour les minorités,
ils ne s'en occupent pas,
c'est qu'ils veulent les faire taire. Ils disent voilà, il y a une diabolisation. J'avais fait un grand papier dans le Point sur justement des figures noires et qui ne sont pas woke, donc de tout le spectre politique. Le point commun entre tous, c'était, il disait, on est franchement diabolisé. Enfin, faut vraiment ramer avec 4 rames pour arriver à se faire entendre. Et voilà, c'est vraiment ça
des minorités. D'où vient cette obsession en fait aujourd'hui de cette défense? Parce que tout à l'heure, il y a une forme de revanche, quoi. C'est ça, non?
Non, je pense que c'est plus à la fois plus pervers et plus simple que ça. C'est quand on défend les minorités et victimes, c'est facile d'avoir un discours paternaliste et de pouvoir justement de dire on va vous aider, vous êtes malade, considérer les gens un peu comme des convalescents, comme des enfants. Et c'est pareil, c'est mauvais, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, Peggy Sastre, d'être venue donc, ce matin sur Sud Radio pour ce livre, traduit du best-seller anglais, Le Triomphe des Impostures Intellectuelles. C'est aux éditions H&O. Vous pouvez lire Prendre votre temps, parce que ça fait quand même 450 pages. Ça fait 450 pages, mais vous pouvez picorer, prendre en fait un chapitre.
C'est une référence.
C'est vrai, ça ne va pas
se démoder de sitôt.
Oui, quelque part, pour Philippe Bilger, c'est une Bible. Voilà.
Absolument.
Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci
Philippe Bilger, merci Arlette. Dans un instant, la France à vos côtés, Cécile.
Oui, la France à vos côtés, on va vous parler de ces petits propriétaires, qui, vous savez, qui achètent des appartements pour leur fin de vie, pour leur retraite, pour un complément en tout cas de salaire. Et malheureusement, il y a des mauvais payeurs et on va vous expliquer comment aider ces petits propriétaires. Sabine sera avec nous. Sa maman, justement, est victime de ce
Quelqu'un qui ne paye pas. Et pendant ce temps-là, il faut continuer de payer les emprunts, les charges.
Restez avec nous, on revient dans un instant.